Bac FM, il est 18h30. Mes invités du soir aujourd'hui sont Christophe Voutz, commissaire d'exposition à la Maison à Nevers, et Jean-Jean Cis, photographe. L'occasion ensemble de découvrir les deux nouvelles expositions sur le travail de ce photographe, Jean-Jean Cis. Les corps impressionnés, c'est la première expo disponible à la Maison du 17 mai au 19 juillet, et Animalité à Moulins en Gilbert, une expo disponible au musée de l'élevage et du Charolais et à l'office du tourisme Rive du Morvan. Bonjour Jean-Jean Cis.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation à l'occasion.
Merci aussi de m'avoir invité.
C'est avec plaisir. Merci d'avoir répondu à mon invitation à l'occasion de votre venue donc à Nevers pour plusieurs expos. Vous allez être à Nevers, vous allez être aussi à Moulins-en-Gilbert. On va revenir dessus, bien évidemment, sur ces deux expos. Et puis également avec Christophe Voutz, commissaire de l'expo Les Corps Impressionnés. C'est celle que l'on va retrouver à la maison. Bonjour.
Bonjour, oui, exactement.
Jusqu'au 20 juillet, je crois.
Jusqu'au 19, exactement. Le 20, on décroche.
Ah, le 20, c'est trop tard.
Ce sera juste
on
trop tard.
On verra les œuvres descendre. Mais bon, on a encore le temps quand même.
Il y a le temps, il y a du large.
On va revenir sur ces deux expositions, Les Corps Impressionnés puis Animalité. Animalité, il y a une différence avec Les Corps Impressionnés, c'est que c'est une expo mobile. On reviendra bien sûr dessus, c'est en lien avec Éclat, qui est un dispositif de la maison. Christophe Voutz, vous nous raconterez un petit peu ce dispositif, comment il est né, et puis l'objectif aussi de ce dispositif qui est donc présent à Moulins en Gilbert. Là, c'est ces jours-ci. Jean-Jean Cis, juste avant, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes né à Anse, à côté de Liège.
Exact.
Vous êtes un Belge.
Tout à fait, pur porc.
Et j'ai en ce moment des chocolats belges chez moi, figurez-vous. On m'en
bon
a apporté
appétit.
Hier. Ils sont très bons, ils sont très bons. Vous êtes licencié en philosophie romane, vous êtes agrégé de l'enseignement supérieur, vous êtes photographe autodidacte, ça c'est très intéressant. On va revenir dessus, vous êtes reçu au jury d'État en 86 et professeur de sémiologie et de photographie. C'est quoi la sémiologie ?
Eh bien, ça se définit rapidement comme une sorte de science au sens large du terme, science humaine, dont l'objet d'étude est les signes,
d'accord.
La notion de signe, sachant qu'un mot est un signe, une image est un signe, voire même un objet, un micro, un casque, tout ça sont des signes. Est-ce que c'est porteur de sens ? Si oui, pourquoi, comment, etc. C'est vraiment une définition très très sommaire.
Pour quelque chose qui est relativement large.
Et qui touche beaucoup à la linguistique.
Ouais, et assez diverse.
Et diverses.
Et donc vous êtes professeur de sémiologie et donc de photographie, comme vous venez de nous l'expliquer, à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Vous y avez été jusqu'en 2017. Je disais que photographe autodidacte, c'était intéressant. Comment est venue justement cette passion pour la photographie ?
Alors bon, autodidacte, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai 25 ans, je suis professeur de français dans une école d'art, section photographie. Les étudiants sont à peine plus jeunes que moi. Et je découvre à travers leurs travaux de la photo. Mmh. Je prends goût à la photo et je me lance à corps perdu dans l'aventure de la photographie.
Qu'est-ce que vous preniez en photo à ce moment-là, justement ?
Au tout début, je faisais ce que j'appelle des reportages de rue. Je me baladais dans la ville, à Liège, en banlieue, un peu partout en Belgique, plus tard un peu partout en Italie, en France.
Ouais.
Ce n'est qu'un peu plus tard que la notion de portrait, le travail que je développe maintenant, prendra tout son essor, tout son envol.
Au début, vous preniez plutôt la vie de tous les jours,
oui,
en fait.
Oui, voilà, des photos itinérantes, si vous voulez, de gens en rue, voilà, des scènes un peu pittoresques. Mais j'avais déjà cette envie de m'approcher des gens, j'avais le souci du gros plan, le souci du contact. Pour moi, la photographie a toujours été un moyen de contact aussi. Donc, j'ai fait des paysages, mais très peu. C'est un relationnel par rapport aux gens.
Ces premiers clichés que vous avez, vous en avez encore ?
Je les garde précieusement, mais ils ne sont plus tellement d'actualité. Je ne les montre plus parce qu'ils ne sont plus dans le même contexte.
Ouais.
Ils font partie de moi, de ma vie, de ma biographie, si j'ose dire, voire peut-être du patrimoine, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, je me suis vraiment développé dans une spécialité qui est le portrait, le corps,
ouais.
Le nu, la photo plutôt de studio, photo mise en scène. Dans le reportage, on est dans l'actualité immédiate, on est dans ce qui est sur le vif. Moi, je mets en scène. Donc, tout est mis en scène, tout est organisé.
Vous êtes plus dans l'imaginaire que dans le réel.
Tout à fait.
à travers quand même quelque chose de bien réel qui est les corps, et on va revenir dessus dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous plaisait, justement, qu'est-ce qui vous a plu dès le départ dans la photographie pour vous lancer, comme vous l'avez dit, à corps perdu, justement, dans cette photo?
C'est tout un concours de circonstances. Moi, je me répète, me voici professeur, j'ai toujours bien aimé l'art, l'écriture, j'aurais voulu écrire d'ailleurs, etc. Et puis, je trouve un moyen d'expression dans la photo qui me convient parfaitement. Voilà, c'est un regard, c'est aussi quelque chose de concret, il faut faire des images, il faut aussi les développer en laboratoire. J'ai tout fait, si vous voulez, de la chambre noire à la prise de vue, ou l'inverse, de la prise de vue à la chambre noire. Il y a vraiment ce contact physique avec ceux qu'on photographie, et puis il faut être sur place aussi pour photographier quelque chose.
Vous parlez beaucoup de contact physique depuis tout à l'heure à travers vos réponses. Qu'est-ce que ça veut dire dans vos photos finalement ?
Je reviens plus sur la notion de moyen d'expression, sur la notion de partage. Vous savez, vous pouvez faire une peinture dans votre chambre. Vous pouvez dessiner la Tour Eiffel dans votre chambre. Vous pouvez écrire un roman dans votre chambre. Mais pour photographier la Tour Eiffel, je dois être à Paris. Pour photographier quelqu'un qui s'appelle Paul, Pierre, Jacques, je dois l'avoir devant moi. Donc la photographie nécessite absolument le contact. Je ne peux rien photographier si ce n'est pas devant moi. Soit une paire de lunettes, une chaise, quelqu'un, un chat, un chien, ça nécessite la présence physique. Donc en photographie, je ne peux rien faire de mémoire. Je dois être sur place. Et c'est ça qui me plaît aussi, dans ce contact. Ça va un petit peu plus loin que ça aussi, parce que c'est destiné à être partagé.
Oui, bien sûr.
Et voilà.
C'était une manière aussi d'aller au-devant des gens, ce que vous n'auriez peut-être pas osé faire sans un appareil photo?
Très probablement. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui, à l'origine, on ne sait pas toujours pourquoi. On est pris dans un piège aussi. On met le doigt dans un engrenage, et puis il y a tout qui passe, si je puis me permettre. Parce qu'il y a la fascination, il y a aussi le regard que les autres portent sur ce que l'on fait. J'aime bien tes photos, alors ça prend tout de suite une ampleur, une plus grande ampleur. Voilà, un peu l'adhésion, de savoir que les gens ont adhéré à ce que je fais, sont d'accord, sont complices. Je parle pour mes modèles, là.
Oui, bien sûr.
Et puis, il y a aussi un propos qui est tenu dans les images, j'espère en tout cas.
Ouais. Et cette vision d'ailleurs qui peut changer selon votre vision à vous de créateur, d'artiste, et la vision aussi d'un visiteur à un autre, selon la tranche d'âge, selon ce que lui, il perçoit à travers cette photo, etc. Ça peut être intéressant aussi.
Voilà, la perception, elle est vraiment toujours relative, toujours subjective, et elle dépendra vraiment de chacun et du vécu de chacun. En plus, il y a quand même malgré tout une image qui est là et qui, elle, est stable, j'ai envie de dire immobile, et qui est aussi, on parlait de sémiologie tout à l'heure, porteur de sens, si vous voulez. Je vais prendre le mot père, par exemple, ou le mot mère. Il va résonner de façon très, très différente pour chacun d'entre nous. Pourtant, c'est le même mot, et pourtant, ça peut être vraiment une définition de base, mais qui va être ressentie. Chacun peut voir la photo, le tableau, le ressenti qu'il veut, mais il y a quand même une image qui est porteuse d'un sens et pas d'un autre, en quelque sorte. C'est un peu radical, ce que je dis, mais...
Mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure quand on était dans l'exposition. Et il y avait aussi ce rapport au nu et le rapport à ce que la manière dont les gens de génération, on va dire, d'aujourd'hui perçoivent le nu. Parce que ce sont des images qui sont là, qui défilent sur les années, mais il y a beaucoup d'images des années 90. Et une manière, Jean-Jean VI aborde aussi le corps d'une certaine manière, mais le corps, par contre, lui, est perçu différemment en fonction des générations. Ouais. Et aujourd'hui, le rapport à la nudité, au corps, au fait de montrer le corps, est totalement différent d'il y a 20 ou 30 ans.
Voilà, c'est vrai que moi, je me suis embarqué, entre guillemets, dans cette aventure sur le corps, et qui comprend le nu, bien entendu.
D'ailleurs, le nu qui est, sans mauvais jeu de mots, nuancé, d'ailleurs, dans cette exposition aussi.
Oui, voilà. Et ça mérite d'être vu, évidemment, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Parce que dès qu'on dit le mot nu, ça peut tout de suite faire polémique. On peut basculer d'un côté ou de l'autre.
Et justement, comment on évite qu'un cliché... moi, j'ai vu sur votre site internet de nombreux clichés de votre part. Alors, il y a d'ailleurs le nu qui est, pour le coup, nuancé à travers certaines rubriques. Comment on fait pour qu'une photo ne soit pas polémique, justement ?
La bonne question, mais difficile.
Je mets des guillemets dans polémique, bien sûr.
Je crois que je me suis assez... Je m'inscris dans un contexte qui est celui de l'art. Et pas d'autre chose. Le but, c'est de faire de la photo artistique, qui reste à définir aussi, si vous voulez. Je suis très inspiré par l'Italie, par les statues italiennes, par la peinture italienne. Donc, quelque part aussi, dans cette peinture et dans ces statues, il y a du nu, il y a un rapport au corps. On est aussi dans les années 90, où j'ai commencé, à une époque où il y a les grands photographes de nu, comme Appeltorp et d'autres encore plus connus. Donc, moi, je suis un petit peu dans ce contexte-là. Et le tout, c'est d'essayer d'être juste, d'être sur la corde raide, sans basculer du mauvais côté, si je puis m'exprimer ainsi.
Après, est-ce que c'est pas aussi une part de l'artiste d'être des fois un petit peu limite, d'être même des fois un petit peu borderline et de faire polémique? Ça peut être aussi un choix des fois.
Je voulais le dire. C'est très bien, voilà. Moi, c'est vrai que si je peux être un peu subversif, un peu choquant, un peu dérangeant, ne pas laisser le spectateur dans une sorte de tranquillité facile, mais dans des questionnements sur ce que c'est que le corps, sur ce que c'est que la jeunesse, sur ce que c'est que la beauté, etc., ça m'arrange bien, quitte à être un tout petit peu provocant, voire provocateur. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que Christophe disait, dans les années 90, je pouvais déshabiller mes modèles sur la plage, en studio. D'ailleurs, Véronique et Davina, dans Gym Tonic, se douchaient nus tous les dimanches matins, devant les familles françaises réunies.
Ça donnait envie à beaucoup d'hommes de faire du sport, d'ailleurs.
Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est même plus pensable aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Voilà, moi je m'accroche un petit peu à des valeurs qui ont été les miennes, du temps de ma jeunesse, et j'essaie de prolonger aujourd'hui encore toute une série de choses qui s'effilochent, qui disparaissent. Voilà, faire des photographies, je me comprends, très européennes quelque part.
Est-ce que c'est une manière aussi un petit peu à travers cette exposition? Alors du coup, on en parle, j'avais autre chose à dire, on y reviendra juste après sur votre carrière, mais est-ce que du coup cette expo, c'est aussi un petit peu une manière d'être, entre guillemets, je dis bien, vieux con, et de dire c'était mieux avant, peut-être?
J'espère que non. J'espère que non. Parce que, moi, à la limite, la seule chose qui m'intéresse, c'est demain, c'est l'avant, ça c'est sûr et certain. Là, j'ai la chance immense d'avoir une exposition rétrospective de plus de 100 photos. C'est impressionnant. Moi, ça s'appelle les corps impressionnés. Ouais. Je peux vous assurer que moi, le premier impressionné, c'est moi. J'ai jamais vu mes photos dans ce contexte-là, tout aligné comme ça. Moi, j'habite dans une toute petite maison et quand je vois 3 photos ensemble, c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de place. Ici, c'est vraiment pharaonique. Bon, voilà, c'est un côté un petit peu démonstratif qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a donc des photos anciennes qui font partie de la rétrospective, mais encore des photos de 2023, ça continue, voilà, avec un peu plus de difficultés parce que j'ai pas envie de me répéter, pas envie de me redire. Ouais. Il faut se battre pour être inventif, pour être toujours créatif, et ça c'est un peu un combat qu'il faut mener.
Mais quelque chose aussi qui est important, dont je trouve dans le travail de Jean-Jean Six, et pour éviter justement cette politique du c'était mieux avant, c'est que on se rend compte en regardant l'ensemble du travail du photographe que il y a cet élément intemporel. C'est quelque chose qui revient très fortement. Ça veut dire que on se rend compte du moment où la photographie a été prise que quand on regarde le cartel avec la date dessus, parce qu'on ne voit pas la différence entre les images qui ont été faites dans les années 90 et celles qui ont été faites la semaine dernière. Et donc cette idée justement de dire bon voilà, c'était mieux avant, il y avait une autre, c'est vraiment une question que l'exposition ne pose pas, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur une continuité dans le temps. Et je pense que si Jean-Jean Six refait une autre rétrospective dans 10 ans ou dans 15 ans avec de nouvelles images, il y aura plus d'images, mais avec toujours ce même fil d'une grande constance, ce qui rend l'exposition extrêmement puissante et justement attrayante.
Mais on aura bien sûr l'occasion de revenir encore dans quelques instants sur cette expo Les corps impressionnés. Juste avant, j'aimerais revenir quand même sur votre autre exposition personnelle que vous avez fait au cours de votre vie, car là le voyage quand même est intéressant. Votre actif, vous avez de très nombreuses expositions personnelles ou collectives, d'ailleurs, à Liège, à Celt, Namur, Paris, Toulouse, et puis Rome aussi, Londres, New York, Santiago du Chili, et donc Nevers maintenant. C'est Nevers le mieux quand même, on va pas se mentir.
J'allais le dire. Mais en tout cas, il faut bien imaginer que si on se met à ma place, le ressenti que j'ai de voir cette exposition, c'est, ça me touche.
Oui, ça montre aussi le chemin parcouru aussi, j'imagine.
Voilà.
Vos œuvres, elles ont été acquises par la communauté française, par la FNAC, le musée de la photographie de Charleroi, la Bibliothèque nationale de France, le musée au Kendami à Brescia, le musée de l'Élysée à Lausanne, et elles font partie de collections publiques mais également privées. Là, c'est intéressant, et alors moi je me suis un petit peu renseigné, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir des œuvres acquises ?
Ah ben, ça veut en tout cas dire que les gens les apprécient et leur accordent de la valeur. À une certaine, on pense souvent que la photographie, c'est un art pour amateurs. Mmh. Tout le monde fait des photos.
Parce que maintenant, de plus en plus de personnes font des photos aussi.
Voilà, aussi avec les moyens techniques. Mais depuis pas mal d'années déjà, depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que la photo était un art à part entière.
Ouais.
Et que c'est devenu mais vraiment un art... pas dire majeur, mais il y a des festivals de la photo partout. Il y a des musées de la photo qui fleurissent ici et là. Il y a des rencontres photographiques, je pense à Arles et des tas d'autres lieux, à Houston, au Texas et ainsi de suite. Donc, la photographie fait partie de notre patrimoine et elle est collectionnée en quelque sorte comme de véritables œuvres d'art. Ne serait-ce que sur le plan des prix, vous seriez surpris de voir que des photos sont non pas en dizaines, non pas en centaines, mais en plusieurs millions d'euros pour quelques exemplaires. C'est peut-être une bulle comme ça qui va éclater, mais il y a un essor pour la photo. Les jeunes vont plus voir d'expositions de photos que de peintures. C'est les billetteries et la statistique qui en témoignent. Et donc, il y a des organismes comme la Bibliothèque de France, comme la FNAC, qui font des acquisitions de photos parce qu'elles appartiennent pour eux au patrimoine. Et ça valorise évidemment
l'artiste et l'œuvre, bien sûr.
C'est très valorisant de faire partie. C'est une sorte de... Vous savez, les photos, c'est ce que je fais, elles ne sont pas pour rester dans des tiroirs. Quoi, hein. C'est comme quelqu'un qui fait du théâtre, ce n'est pas pour jouer dans son grenier ou dans le salon. Quoi. Quelqu'un qui chante, ce n'est pas pour chanter dans la salle de bain. C'est pour les photos, il faut qu'elles soient vues, montrées à Nevers jusqu'au 19 juillet.
Jusqu'au 19 juillet, bien sûr. Toutes ces acquisitions-là que je viens d'évoquer, laquelle vous rend la plus fière, vous a le plus du moins marqué ?
Il y a comme ça des lieux saints. Hein. La Maison européenne de la photographie, c'est une très 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 belle adresse. C'est un retentissement international, alors que d'autres sont plus confidentiels.
Oui, bien sûr. Quelle œuvre a été acquise là-bas ?
C'est un mix de...
D'accord, c'est plusieurs clichés.
Oui, voilà, okay. Oui.
D'accord.
Donc voilà, si moi je présente des photos, c'est moi parfois qui fais les démarches. Hein,
oui, d'accord, ok.
Parce qu'on me connaît, on me connaît, les gens viennent voir les expositions, ils vont voir dans les galeries, et si le directeur du musée de l'Élysée à Lausanne vient voir mes photos, il va dire, on va acquérir...
Donc là, il peut venir à Nevers, par exemple,
voilà, tout à fait,
jusqu'au 19 juillet, et dire, moi je veux celle-là au musée.
Voilà, ça soit à la fois des privés, parce que les photos sont à vendre, bien, comme un spectacle est à aller voir, avec un billet qu'il faut payer à l'entrée.
Tout à fait.
Et les photos sont à vendre. Certaines institutions se donnent les moyens, parfois des banques, parfois des gens qui collectionnent l'art, soit la peinture, la sculpture, et ils font partie des collections.
Ouais, c'est des placements aussi, mais dans l'art.
Ça peut être vu comme...
C'est de l'investissement, mais pas dans la pierre, et dans l'art, bien sûr.
Il existe d'ailleurs ce qu'on appelle des portefeuilles boursiers de photos où des spécialistes mettent 10 photos de photographes très connus et puis 5 photographes moins connus et ça se valorise ou pas. Il y a un petit peu le domaine, si vous voulez, de la photo de collection, de la photo d'art, à la fois privée et publique.
Christophe Woutz, qu'est-ce que ça représente pour vous la présence de Jean-Jean Six à la maison avec cette exposition et puis aussi de le présenter à travers la Nièvre et notamment la Moulin Gilbert avec ce dispositif qu'on va évoquer tout à l'heure.
Ça représente pas mal de choses. Déjà dans le cadre de la programmation de la maison, il faut savoir qu'avant l'exposition de Jean-Jean Six, il y avait une exposition qui s'appelait Identité au pluriel où on présentait des artistes peintres émergents. Donc, il y avait tous à peu près une vingtaine d'années. autour de ce thème de l'identité. Et je trouvais, dans le cadre d'une programmation qui est intéressante, après montrer de jeunes artistes qui arrivent avec un travail, de présenter le travail d'un photographe avec une carrure large et une carrière déjà bien installée. Mmh. Et donc, il y a ce contraste que je trouve vraiment intéressant. Puis, bon, le travail de Jean-Jean Six, je le connais depuis longtemps. Ça fait 30 ans que je connais le travail de Jean, parce que, bon, je le dis là parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Jean-Jean Six a été en fait mon professeur de portrait et de photographique et de sémiologie, donc pendant qu'il était, il donnait cours à Liège.
D'accord.
Et donc les cours de sémiologie que j'ai eus à l'époque me servent encore aujourd'hui, en particulier pour quand je travaille, quand je dois faire des expositions qui sont autre chose que de la photographie, de la peinture, de la sculpture, qui sont un peu moins mon domaine de prédilection. Mm-hmm. Ce rapport de l'étude des signes dont on parlait tout à l'heure permet en fait de lire la poésie d'un travail et d'en comprendre en fait les grands axes. Donc ce travail, je le connais depuis longtemps et je savais que Jean avait énormément d'images en stock et pour pouvoir remplir la maison de la culture, il faut avoir
beaucoup d'images
à présenter, parce qu'il faut savoir que l'exposition Les corps impressionnés plus animalité qui se trouve à Moulins-en-Gilbert, on est à peu près 130 images en tout. Donc il faut déjà avoir un peu de carrure. Sachant que Jean a d'autres expos qui tournent en même temps, ça veut dire une grande quantité d'images. Et au-delà de la quantité, il faut un travail qui peut se déployer en fait sur un tel espace,
ouais.
Parce que ça demande d'avoir un travail mûr et qui peut se déployer en plusieurs facettes et qui permet aux spectateurs de voir des choses. Un travail très cohérent, mais en même temps avec des facettes complètement différentes, parce qu'on parle beaucoup de gomme bichromatée avec
ce
bicouleur, mais il y a d'autres choses, il y a des images avec en couleur, avec des effets fluorescents, enfin voilà, il y a des choses importantes et qui permettent d'être déclinées sur un tel espace.
Il n'y a pas uniquement de photos en noir et blanc dans cette expo-là à la maison.
Non, il y a quelques images en couleur avec, comment ça s'appelle en fait, les encres utilisées pour les images fluorescentes?
Ce sont des pigments en poudre, mais à part qu'ils sont fluorescents ou phosphorescents.
Et donc, vous allez voir, ça fait l'effet de surprise de l'expo. Donc ça, pour moi, tout ça, c'était des éléments extrêmement importants. Et puis, le travail de Jean était suffisamment large pour pouvoir encore faire une exposition à Moulins-en-Gilbert dans le cadre du dispositif Éclat. Mmh. Et qui est j'ai pris en fait un aspect très particulier de son travail, qui est la photographie de chiens, de ses chiens, de ses pointeres, c'est ça?
Oui.
Voilà, qui est une...
Des pointeres.
Des pointeres, les plus beaux pointeres du monde.
Bon, on reviendra dessus.
Oui, voilà. Et donc, qu'on présente à Moulins-en-Gilbert, dont le vernissage se fait ce vendredi.
Alors justement, on va revenir avant sur cette série, Les corps impressionnés, on en a déjà beaucoup parlé. Combien de clichés déjà sont présents à la maison?
J'ai fourni à la maison, Christophe, 140 images. Je pense bien les avoir comptées à l'une ou deux près. C'est énorme.
Avec des tailles différentes, c'est ça?
Il y a 90% des images qui ont une taille standard qui fait 1m10 sur 80 cm. C'est quand même déjà... Voilà, c'est grand comme image, et puis il y a des plus grandes et des plus petites, mais voilà, c'est assez homogène comme...
Donc il y a une centaine d'images qui se trouvent à la maison et une bonne trentaine d'images qui se trouvent à Moulins-en-Gilbert.
À Moulins-en-Gilbert, donc pour Animalité, l'autre expo qu'on va évoquer tout à l'heure. Moi j'ai déjà pas mal vu de clichés que vous mettez à disposition sur votre site, que tout le monde peut aller voir, qui évoque donc le corps, parce que c'est le thème qui m'intéressait pour le coup pour préparer cette émission. Et je me suis posé cette question, comment vous choisissez vos modèles qui sont relativement tous différents en fait?
Ils sont tous différents parce qu'ils sont tous un nom, un prénom, une adresse différente, un numéro de téléphone différent, mais ils sont quand même extrêmement profilés. j'ai presque envie de vous contredire.
Ah mais allez-y, contredisez-moi. Au contraire.
Et dire que c'est pas, ben voilà, c'est tous les mêmes. Donc je veux dire par là, il y a des conditions en sine qua non. Ils ont tous une vingtaine d'années. Il y a pas de modèle au-delà de 30 ans.
Alors pourquoi?
C'est la fascination de la jeunesse et de la beauté. Voilà, c'est bon, je dis.
Est-ce qu'on est moche quand on a passé 30 ans?
Il faut pas le dire comme ça. Il faut pas le dire comme. Regardez-moi.
Oui, bah oui, bah puis
pas,
moi.
Je ne suis pas à perdre de l'année.
Il me reste plus beaucoup de temps avant d'être moche, alors donc ça m'arrange pas.
Je ne suis pas. Non, c'est. Je dis, c'est un peu comme un piège dans lequel on tombe. Hein. C'est cette fascination de la jeunesse. Ouais. Il n'y a pas que moi. Hein. Tous ceux qui achètent des crèmes, des produits de beauté, tout ce qu'on fait pour rajeunir, les compléments alimentaires. Il y a cette fascination obsessionnelle de la jeunesse.
Et de rester jeune. Ouais.
Et de rester jeune. Mmh. Par le sport, peu importe. Ça fait partie des. C'est humain quelque part, c'est une façon aussi de repousser la mort, hein, de la repousser le plus loin possible. Moi, les photos que je fais aujourd'hui, elles sont encore des photos de très jeunes personnes, d'une vingtaine d'années, quoi. De jeunes gens, de jeunes hommes. Voilà, c'est cette fascination. Maintenant, je devrais revoir un petit peu, je parlais d'être créatif tout à l'heure, j'ai photographié une personne de 80 ans, je suis enchanté de la photo. Je suis vraiment, même si la personne ne s'aime pas beaucoup parce qu'il avait une autre image de lui-même, les modèles, ils sont soucieux de leur image, hein, ça je peux vous l'assurer.
D'autant plus quand la nudité rentre en jeu dans les clichés.
Oui, voilà. Ouais. Maintenant, moi c'est vrai que je n'ai jamais exigé la nudité, mais ça fait partie de mon travail, c'est pas une condition absolue non plus. La personne qui ne veut pas poser nu ne pose pas nu, c'est pas un problème. Je fais un portrait ou un détail. On parlait d'intemporalité aussi, le fait qu'il soit dévêtu, il n'y a pas de référence à des vêtements. J'interdis les maquillages, il n'y a pas de bijoux, pas de montres, pour revenir un peu sur l'intemporalité dont on parlait. Et puis ce qui fait que j'ai pu photographier les personnes que je n'ai jamais photographiées, interrompez-moi hein, si vous voulez, parce que je
non, non, allez-y, allez-y, je vous en prie.
Et je choisis toujours les gens que je photographie. Je n'ai jamais fait appel à un professionnel, ce qu'on appelle un mannequin, parce que tout me semble artificiel chez les mannequins, les rires, les sourires, etc. Ce sont des complices, ce sont des gens que je connais, qui sont des amis. Vous avez bien compris que je photographie depuis plus de 40 ans. Hein. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Et ce qui me permet de continuer aujourd'hui, c'est la crédibilité du boulot. Là, il y a des gens qui me demandent encore aujourd'hui, je voudrais bien que tu me photographies, j'ai vu ton travail, ça me plairait bien de poser pour toi. Ça arrive encore aujourd'hui et c'est extrêmement flatteur pour
moi.
Oui,
là aussi, c'est une récompense.
C'est une récompense, bien sûr. On parlait aussi de la façon de rester, de ne pas basculer du mauvais côté de la nudité. C'est parce qu'il y a quand même un énorme respect des modèles, de leur image et ainsi de suite.
Oui, bien sûr.
Ils sont idéalisés quelque part. Hein. C'est une façon de parler aussi. Voilà, on est bien dans une image, moi les gens, pour eux c'est une photo d'eux, mais moi j'en fais des martyrs, des saints, des géants, des héros, j'essaie de les mettre sur un piédestal en quelque sorte.
Y a une technique aussi particulière qui est utilisée dans cette exposition, Christophe en a déjà évoqué quelques mots, c'est la gomme bichromatée, c'est quoi?
Alors, je vais tout vous dire.
Allez-y, faites-moi une leçon de la gomme bichromatée.
Vous avez votre sac de couchage. c'est une très ancienne technique, ce qui revient à dire que je n'ai rien inventé. Et c'est la technique de ce qu'on appelle les pictorialistes ici en France, qui sont un petit peu à l'initiative de cette technique. En gros, cette technique me permet de choisir un papier qui n'est pas un papier photo, c'est un papier dessin, un papier gravure, très structuré, très première qualité, si je puis dire, fabriqué par une des plus anciennes papeteries européennes. C'est pas un papier photo du tout. Et sur ce papier, je couche une émulsion que je fais moi-même. Et cette émulsion, elle contient de la gomme arabique, une colle, si vous voulez. C'est une colle papier. C'est vraiment pour dont la caractéristique est d'être de soluble dans l'eau. Et j'y mélange des pigments. Moi, j'utilise surtout des terres. Les ocres, quoi qu'ils voulaient. On connaît terre de Sienne, moi c'est une terre de Cassel.
D'accord.
C'est une terre qui est nettoyée, épilée, concassée, torréfiée, moulue, comme du café, si vous voulez. Ça va donner la teinte aux images. et j'ajoute un produit chimique qui est un bichromate pour que cette émulsion soit sensible à la lumière. Ça ressemble à un sirop de chocolat, si vous voulez.
D'accord.
Et j'enduis cette émulsion au pinceau sur les feuilles de papier. Et j'ai à ce moment-là à peu près l'équivalent d'un papier photo. C'est un petit peu plus compliqué que ça en termes d'exposition, de développement et tout.
Mais l'idée est là.
L'idée est là.
Mais ceci dit, techniquement, c'est très difficile à maîtriser.
C'est artisanal.
C'est très artisanal.
Il y a des choses qui peuvent m'échapper encore aujourd'hui. Il n'y a pas de garantie absolue.
Ça demande vraiment de la maîtrise.
Et ça prend un temps de dingue. C'est la raison pour laquelle on... Je ne suis pas le seul à en faire, hein, c'est bien connu. Je ne suis pas le seul à connaître cette technique, ni à la faire. Mais il me faut une semaine pour en faire cinq. Quoi.
D'accord.
En travaillant tous les jours.
Hein, oui, bien sûr.
Voilà, c'est...
Et qu'est-ce que cette technique, elle apporte justement à vos photos? Pourquoi cette technique et pas une autre? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qu'artistiquement elle apporte à vos photos?
Eh bien là, on va en revenir façon détournée au corps. C'est-à-dire... Ce papier gravure, il donne le corps, c'est le corps de mes images. Mes images, elles reposent sur un support et c'en est le corps. Je parlais de terre tout à l'heure et c'est... Il y a du volume, si vous voulez, il y a de l'épaisseur, c'est extrêmement velouté. Si je regarde un tirage argentique, je vois quelque chose de lisse, d'aseptisé. Moi, mes tirages, ils sont bourrés de microbes, d'imperfections, mais ils ont un look vraiment très, très, très particulier. Sur les matériaux hein, utilisés, ouais. Il faut savoir aussi que les photos se développent dans l'eau. Je parlais de gomme tout à l'heure. Le bonbon, la gomme. Vous allez mettre en bouche, vous allez sucer, eh bien, il va fondre dans votre bouche. Et ben moi, mes photos, elles fondent dans l'eau. Il y a quelques éléments techniques un peu plus complexes, mais je développe mes photos dans l'eau. Et puis je les sèche à la lumière ambiante. Il n'y a que la terre et cette gomme arabique. Et elles vont résister, on pouvait les exposer en plein soleil, ça ne bougera pas, je le garantis. En plus, elles ont été exposées aux UV, voilà, c'est
un peu... Le crash test est déjà fait.
Je veux bien développer, mais voilà.
Ouais. Mais ces techniques-là, le but aussi, il est de l'expliquer aux visiteurs. Alors là, à l'heure où on se parle, l'inauguration, le vernissage de cette expo, il a lieu dans quelques heures maintenant. Cette technique que vous venez d'évoquer, l'objectif, c'est aussi de le raconter aux visiteurs, de l'expliquer aux visiteurs tout à l'heure et même jusqu'au 19 juillet.
J'ai été professeur pendant plus de 40 ans. Le but d'un enseignant, le but d'un professeur, c'est de transmettre son savoir. Si le professeur n'a pas cette envie de transmettre ses connaissances et son savoir, il ne doit pas être prof. Moi, j'ai adoré mon métier pendant 40 ans et j'ai transmis j'ai fait des stages. Vous pouvez bien imaginer que la technique est tellement spectaculaire qu'on me pose tout le temps la question. Et il est tout à fait légitime qu'on la pose. Et tout à fait, les gens sont en droit que j'y réponde.
Oui, bien sûr. Voilà, l'échange compte beaucoup dans un vernissage comme celui de ce soir, celui de demain aussi à Moulin-Gilbert. On va revenir dessus.
Voilà, il n'y a pas de secret, si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour le détenteur d'un secret. Je dis... c'est comme une recette de cuisine, voilà, j'ai mis ma main, j'ai ma pâte, j'ai un petit peu mes recettes, mais tout ça, je les transmets. Ceci dit, elles changent, hein, la façon dont je travaillais il y a 10 ans, c'est pas exactement aujourd'hui mes 3 grammes de ceci, avant j'en mettais 10, quoi,
voilà, bien sûr,
c'est un petit peu suivant aussi mon humeur.
Et donc cette technique particulière, je vous invite à la retrouver donc dans cette expo qui s'appelle Les Corps Impressionnés. C'est disponible jusqu'au 19 juillet à la maison. Il y a une autre expo aussi qui est disponible à Moulin-Gilbert. Ça c'est chez moi, bienvenue. On va revenir dessus. Animalité, une expo mobile dans la Nièvre qui rentre dans le cadre du programme Éclat. Éclat, c'est la promotion des arts plastiques par la maison. Est-ce qu'on peut revenir déjà avant tout sur ce dispositif que la maison a créé? Comment il est né, en fait, ce dispositif Éclat?
En fait, le dispositif Éclat est aussi totalement soutenu par le département. C'est le département de la Nièvre qui finance le programme. et qui permet que ça puisse être mis sur place. Et le but en fait du dispositif Éclat est de proposer une exposition ailleurs sur le territoire du département, et pas uniquement dans le grand lieu de la maison. Donc c'est très très bien que ça y soit, mais comme la maison fait sa programmation théâtrale, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui sont présentés dans les salles et ailleurs sur tout le département. Ouais. Donc on fait la même chose avec les arts plastiques, avec une exposition, et on essaie de on n'en fait qu'une par an, et on essaie de changer en fait géographiquement d'endroit toutes les années. Des fois on se retrouve au nord, des fois au sud, et puis et avant de mettre en place le dispositif Éclat, avec mes collègues, nous avons fait tout le tour en fait des lieux qui seraient intéressés et disponibles à l'accueil d'artistes, parce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile, ou alors on rencontre un désir très moyen. Ouais. Donc on ne travaille qu'avec les gens qui désirent véritablement nous accueillir et présenter le travail d'artiste. Et c'était le cas avec le musée de l'élevage et du charolais à Moulins et en Gilbert, et avec la Comcom qui a mis à disposition l'espace d'exposition de l'office de tourisme à Moulins et en Gilbert aussi. Ouais. Et ce qui a permis en fait de faire à Moulins un double coup, on va dire, avec deux endroits pour exposer reliés par un petit chemin fléché et pédestre.
Elle est gratuite, cette exposition? L'entrée est libre?
Alors l'entrée est libre à l'office de tourisme. Oui. Mais
au musée du Charolais.
Oui, musée du Charolais, en fait, c'est le prix d'entrée. Oui. Du musée, qui est en fait une association et qui a aussi besoin de ses entrées pour pouvoir survivre. Donc, et voilà, et avec un prix tout à fait raisonnable,
ouais,
de 3 euros. Donc, voilà, pour 3 euros, on peut voir tout Jean-Jean VI. C'est pas merveilleux?
Alors, c'est chien plus particulièrement.
Oui.
Parce que Animalité, c'est une expo qui retrace finalement bien vos chiens.
Voilà, indépendamment des gens que j'ai photographiés, j'ai fait quelques paysages et puis surtout mes chiens. Donc, j'ai toujours eu des chiens. J'ai fait des tonnes et des tonnes de photos souvenirs. Et un jour, je me suis dit, mais voilà mes modèles. Et je les ai alors photographiés avec la même démarche que les gens que je photographie. C'est-à-dire mise en scène, en studio, pauvre bête. Et tout est mis en scène hein, dans les photos, aussi bien pour les gens que pour les animaux,
ouais,
la plupart
sûr.
Du temps. Mais photographier quelqu'un, il suffit de dire « mets-toi comme ça, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça ». Pour photographier un chien, il faut d'abord un gros paquet de bonbons, des knick-knacks, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Je photographie dans une caisse et des mises en scène. Le chien a tendance à bouger, et ainsi de suite. Mais voilà, j'ai essayé d'être performant. Parfois, je les poursuis. Parfois, je les photographie en rampant au bord de la plage. Parfois, je me roule avec l'appareil.
J'en dois se dire qui est ce mec.
Je voulais, si vous voulez, à travers donner un statut, entre guillemets, hein, de modèle à un animal, en faire ses statues, comme il y a une statue, il y a de la peinture animalière, il y a...
Oui, bien sûr.
Moi, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai photographié mes chiens, qui m'attendent impatiemment à la maison, d'ailleurs.
C'est quoi comme race de chien?
C'est des pointères. Donc là, pour moi, je suis à mes 8e et 9e pointères. Donc ça fait plus de 30 ans que j'ai des chiens.
D'accord.
Et ça, un peu par hasard aussi. Mais j'ai toujours choisi dans la même race. Parce que des chiens, les chasseurs savent très bien ça. C'est des chiens d'arrêt, ils sont fougueux, ils ont du caractère tout en étant extrêmement gentils. Je dois les promener, donc je dois payer de ma personne aussi pour aller me balader.
Et c'est ça aussi que vous essayez d'expliquer à travers vos photos, à travers vos clichés, c'est le comportement du chien. Qu'est-ce qui définit ce chien? Le fait que, voilà, vous avez parlé de l'arrêt, ces termes de chasse,
oui.
Vous avez parlé aussi de fait qu'il soit très gentil, très câlin, etc. Nanana. Comment on le retranscrit à travers une photo, si on veut, à travers une photo animalière?
Oui, non, c'est pas cet enjeu-là que moi je me suis fixé. C'est si vous voulez simplement mettre le chien dans un statut de sujet photographique, si vous voulez. C'est, là, de nouveau, je ne suis pas le témoin de quelque chose. C'est pas du reportage. C'est pas de la photo animalière du tout. Il n'y a pas le chien en arrêt ou des choses comme ça. Et non, c'est vraiment des. entre guillemets, c'est pas très objectif, mais surtout, c'est, tous les chiens, d'ailleurs, ont des expressions dans les regards. Regarder un chien, c'est parfois très, très attendrissant. Ils ont l'air larmoyants, ils ont l'air d'une tristesse infinie. Ou alors, ils peuvent montrer des dents aussi. Hein, ça peut... Donc, c'est un petit peu... C'est pas un témoignage sur le chien de chasse. C'est, j'ai défini tout à l'heure la photographie comme un art.
Ouais.
La chasse, c'est aussi un art. Ça veut dire que ça nécessite autant de soins, autant... Moi, je n'étais pas chasseur dimanche, je ne le serai pas demain, parce que c'est vraiment un apprentissage, du dressage. C'est pas à la portée de n'importe qui non plus. Voilà. Moi, le contexte dans lequel je vis n'est pas idéal. Moi, j'ai ces chiens-là qui m'accompagnent tout le temps, et, enfin, sauf cette fois-ci. D'ailleurs, on m'informe qu'ils m'ont aidé à détapisser une partie de la cuisine.
Quelle bonne nouvelle.
Mais moi, voilà. J'ai noté aussi que, en regardant de plus près les photos de ces chiens, c'est que, en écoutant ce que tu viens de dire maintenant, c'est-à-dire qu'il y a de la photo souvenir, il y a le côté affectif, c'est-à-dire l'émotion que le chien. Et tu en as depuis plus de 30 ans. En fait, c'est presque de la photo de famille.
On peut le voir comme ça. Quand je fais en studio, j'organise, je mets en scène. Il n'y a rien qui est vrai. Moi, j'ai fait des pseudo-descentes de croix, forcément. Jamais crucifié quelqu'un chez moi, je vous le garantis. Mais il n'y a rien qui est vrai, mais tout est sincère. Et voilà, et avec les chiens aussi, c'est... Même si je leur mets des tissus sur la tête, même s'ils sont un peu accoutrés, c'est... On est vraiment dans l'affection, quoi. Dans l'émotion, dans le sentiment.
Et c'est ce qu'on retrouve à travers Animalité, qui est dispo au musée du Charolais, jusqu'à... Qu'au 19 juillet également ?
Non, c'est un peu plus tard. Là, on est jusqu'au mois de septembre, je veux dire de mémoire. Voilà, c'est noté. Jusqu'au 22 septembre.
C'est dispo tout l'été.
C'est dispo tout l'été. Mais c'est vrai qu'à l'exposition Animalité à Moulins-en-Gilbert, à deux endroits, mais avec aussi deux esprits. Donc, il y a d'un côté le musée du Charolais, où on a ce côté très fougueux, famille, etc., de cette manière de photographier ces pointeurs. Et... dans l'autre espace, on a plutôt la similitude entre la manière de photographier les chiens et celle de photographier les modèles humains. Donc voilà, il y a malgré tout deux aspects qui sont bien soulignés. Oui.
Donc rendez-vous à Moulins-en-Gilbert, à la fois au musée de l'élevage du Charolais, mais également à l'office du tourisme, pour retrouver cette expo Animalité de Jean-Jean VI, que vous retrouvez également à Nevers pour l'autre expo, Les Corps Impressionnés. Jusqu'au 19 juillet. Merci beaucoup.
Et je prendrai les présences. Hein, c'est le prof qui parle.
Donc, si vous arrivez en retard, vous avez intérêt à faire un mot. Merci beaucoup, Jean-Jean VI. Merci à vous.
C'est moi.
Merci,
vraiment.
Christophe Wout.
Au revoir.
Merci.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. On se retrouve demain à 13h avec les infos de la mi-journée et mon nouvel invité du jour. À demain, 13h. Très belle soirée.